France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiphaine et bonjour à tous.
Alors que le président de la République doit s'exprimer ce soir pour préciser la suite du second confinement, les économistes aussi réinvestissent le terrain des politiques publiques et le débat théorique. Leur souci principal aujourd'hui, l'acceptation sociale des restrictions.
Et oui, des confinements partiels ou confinements allégés, dit un conseiller de Matignon aux Parisiens. L'exécutif peaufine les éléments de langage de la prochaine étape et pendant ce temps, les économistes travaillent à sortir de l'antagonisme entre le sanitaire et l'économie. D'abord, rappelle Mathieu Plane de l'OFCE, si la prévision macroéconomique, celle du PIB, est plus aléatoire, les données fines de déplacement ou données bancaires ont rendu les analyses microéconomiques plus pertinentes. Et puis, pour Charles Viploche dans Le Monde, les économistes ont même fait des progrès fulgurants, notamment grâce à l'intégration des modèles épidémiques, un véritable dialogue, dit-il, avec les scientifiques, où l'objectif commun est de ne pas engorger les services d'hospitalisation. Alors certes, ajoute Mathieu Plane, la réponse des autorités non mécaniques échappe aux prévisions, mais elles n'en sont que plus utiles pour appuyer des décisions expérimentales dans une crise qui, de toute façon, met notre démocratie à l'épreuve. Mieux vaut mal voir donc que ne rien prévoir.
Et c'est donc le retour des préconisations des économistes, Xavier ?
Oui, s'ils avaient été surpris par le premier confinement, cette fois les économistes veulent anticiper. Et contrairement aux recommandations d'Esther Duflo il y a 2 mois, le confinement ne fait plus recette. Trop coûteux, dit Patrick Artus de chez Natixis, qui dénonçait dans Le Monde une gestion dénuée de toute anticipation qui pilote la pandémie, écrit-il, comme on pilotait l'inflation dans les années 70, attendant que les prix s'emballent pour agir. Le fatalisme donc à défaut de mesures socialement acceptables. Et c'est pour résoudre cette épine de l'acceptation sociale que Christian Gaulier et d'autres proposent un déconfinement différencié selon les populations, de la même manière que le font les épidémiologistes dans leur modèle SIR, c'est-à-dire les relations entre personnes saines, infectées et rétablies. Car le problème d'un confinement indiscriminé, c'est que son allègement partiel revient à faire payer l'activité plus rapide de certains par des restrictions plus longues pour d'autres, alors que confiner avec les populations à risque serait un chemin, dit-il, pour que le gouvernement n'est pas à choisir entre l'économique et le sanitaire, économiste juge de paix donc.
Pourtant, ces prises de position entraînent un vif débat sur ce que l'on appelle le prix de la vie.
Et oui, au sermon des économistes orthodoxes, hein, soucieux de la croissance, répond le cœur des économistes néo-keynésiens préoccupés de l'humanité. Le débat s'est cristallisé autour des calculs d'Artus et de Gaulier, éloigné du politiquement correct, écrit Le Monde, qui donne en fait une idée du coût du confinement par rapport aux bénéfices de vie sauvée. C'est 6 millions d'euros le prix de chaque vie épargnée, comparativement 6 fois plus pour le Covid que pour les autoroutes, dit Patrick Artus, qui glisse ce qui fait cher la vie. Cette notion de prix de la vie n'est pas nouvelle, hein. C'est un outil de politique publique depuis les années 60, appellation en fait un peu impropre, car en réalité, elle compare le coût de la mort, c'est-à-dire le coût social de la perte d'un individu, et le prix de la vie, c'est-à-dire ce que l'on est prêt à mettre pour minimiser le risque de mort, par exemple acheter une voiture avec plus d'airbags ou installer un terre-plein central sur une nationale. Mais l'utilisation de cette vie statistique, c'est l'appellation officielle dans les politiques sanitaires, ne fait pas consensus. Ce sont les eaux glacées du calcul égoïste, dénonce avec Karl Marx Pierre Chaillant dans l'Humanité. Ce sont celles de l'économie dominante, orthodoxe, parfaitement néoclassique, qui ignore les difficultés du système de santé, ajoute Jean Gadret dans Alternative économique, et qui, plus encore, affirme Jean-Marie Haribet, majore le coût d'une vie sauvée et minore ce qu'elle aurait pu produire, exagérant ainsi la perte de rentabilité due aux restrictions. Alors, malentendu ou opposition de fond, le débat est ouvert.
Et la crise a en tout cas fait émerger une notion de coût social.
Oui, coût social plutôt qu'économique, insiste Camille Landais de la London School of Economics, pour tenir compte d'une adhésion des populations qu'il dit déterminante dans l'efficacité des mesures. De là des stratégies originales, le Belge Mathias Vatripoint s'inspire des méthodes de la sécurité routière pour proposer un objectif d'incidence maximale de 10 cas pour 100 000 habitants qui agirait comme une limitation de vitesse, ce qui implique de renforcer le dépistage, financer l'isolement et communiquer en amont sur les mesures. Plus innovante encore, fort est l'idée d'un permis à point du R0 de Camille Landais, mélange de techniques sophistiquées de maîtrise des marchés, le cap and trade inspiré des quotas carbone et de validation populaire. En choisissant cette fois collectivement et à l'avance un ensemble de restrictions dès que le R0, c'est-à-dire la capacité de diffusion du virus, dépasse le 1 fatidique du seuil épidémique. L'idée étant que de petites restrictions ciblées valent mieux que de grands coups de frein, comme en conduite automobile. Avant de réappuyer sur l'accélérateur, il faut d'abord un ABS pour éviter les dérapages droit dans le mur. Et donc, plus on se confine mieux, moins on se confine plus.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'Écho.